Arnaud Marzorati, bonjour. Vous êtes le directeur artistique des
Bonjour.
Lunisiens, un ensemble vocal et instrumental pas comme les autres.
Oui, alors c'est vrai qu'il a cette particularité d'être un ensemble d'instrumentistes et de chanteurs qui ont pour vocation de réaliser des projets artistiques et pédagogiques autour de la chanson historique. Nous abordons ce répertoire qui commence, je dirais, à partir de la Renaissance, en tout cas pour nous, et qui se poursuit jusqu'à des créations contemporaines. Alors, ce mot lunésien, j'aime à le rappeler, il est extrait d'une œuvre de Raymond Queneau, et tout simplement, les Lunésiens, ce sont les habitants de la Lune, et c'est ce plaisir que j'ai à explorer, je dirais, de manière intime, tout ce répertoire de la chanson, en opposition un petit peu avec ce qui est trop solaire. Alors, c'est les mots, la littérature, qui sont mis à valeur égale de la musique dans notre aventure, puisque, comme je le rappelle aussi souvent, la chanson est la petite sœur sauvage de la mélodie. Mais elle a ceci d'essentiel qu'en plus d'être de la poésie en musique, elle est un média. N'oublions pas que ça a été le premier des médias jusqu'à la Première Guerre mondiale. Voilà, c'était cette chanson qui était le média, la parole de tous ceux qui ne savaient ni lire ni écrire.
Comment expliquez-vous cette barrière de la Première Guerre mondiale? Qu'est-ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale qui fait que la chanson, finalement, a perdu ce rôle qu'elle avait, auparavant?
On peut dire que tout cela s'est fait progressivement, hein. Y a le gramophone qui arrive, et puis par la suite, bien sûr, il va y avoir la radio, le cinéma, bref, tous ces médias qui vont faire qu'on va pouvoir utiliser la parole d'une autre manière. Donc, cette chanson, je dirais pas qu'elle va être amoindrie, mais en tout cas, elle sera vouée à d'autres fonctions, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on va dire que c'est ce début du 20e siècle, cette modernité, ce monde moderne qui transforme la fonction de la chanson.
Quand vous parlez de chansons, vous parlez de chansons françaises exclusivement.
Oui, alors dans mon cas, c'est vraiment ce que j'ai décidé de défendre. Voilà, le patrimoine, patrimoine, c'est un mot dont on parle souvent, et pour moi, c'est le patrimoine immatériel de la chanson française, mais qui nous ouvre aussi sur le monde. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Je parle, je chante français, mais pour le plaisir de rencontrer les autres.
Alors, vous parlez de patrimoine, Sainte-Hélène, votre nouvel album participe à la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, ce 5 mai. Comment vous est venue l'idée de ce projet?
Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu compliqué aujourd'hui parce que j'ai cette sensation qu'il faut maintenant se justifier, en tout cas en ce moment, quand on s'intéresse à Napoléon, hein, parce que ce n'est pas une idole pour moi, mais c'est vrai que durant mon enfance, j'avais cette passion des petits soldats. Alors, je le rappelle, par la suite, j'étais objecteur de conscience, voilà, je ne suis pas un va-t-en-guerre, mais c'est vrai que j'avais cette passion de celle où l'on peint, où on s'amuse à recréer de grandes batailles. On sait que c'est des choses maintenant qui n'existent plus, mais voilà, moi, j'étais de cette école, et j'ose même dire que je me suis amusé sur les plaines d'Austerlitz et de Waterloo avec tous ces soldats. Voilà, j'ai fait mourir plus un de mes héros dans une bérésina de plastique et de plomb. Et puis quand même, adolescent, je me suis enivré des grands romans. Il y a quand même Stendhal avec sa Chartreuse de Parme, Balzac et son Colonel Chabert, Victor Hugo avec ses grandes fresques hein, qu'il raconte dans Les Misérables, et puis ses mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait imaginer que Chateaubriand, Napoléon, c'est l'ennemi juré. Et on ressent quand même cette admiration. Il dit des choses si puissantes sur Napoléon. Donc voilà, c'est un petit peu en façonnant l'adulte que je suis devenu de par le jeu, hein, un jeu paradoxal, hein, parce que c'est vrai que ces jeux de guerre, ça peut paraître effroyable, et puis par toute cette littérature qui nous montre à quel point bah, Napoléon, c'était le héros romantique par excellence.
Alors justement, plusieurs milliers de couplets ont été écrits sur Napoléon de son vivant jusqu'au début du XXe siècle. Comment avez-vous sélectionné la vingtaine de titres qui composent le programme de Sainte-Hélène, ce nouvel album?
Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs millions de chansons. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Alors, il n'est pas le seul, hein. On a différentes thématiques comme ça qui sont abordées par des milliers de chansons, mais là quand même, c'est quelque chose d'assez conséquent. Alors on a des gens de plume comme Béranger, des Augier, de Brault et tant d'autres. Mais surtout, il y a beaucoup d'anonymes. Et moi, donc, j'ai choisi un petit peu d'équilibrer mon programme par ce partage entre, je dirais, l'auteur qui est écrivain, spécialisé, qui célèbre, qui chante donc ce grand personnage, et puis l'anonyme, que j'appellerais plutôt propagandiste. C'est d'ailleurs toujours ce que j'ai fait. Par exemple, quand j'ai fait le disque 1789 ou Les Trois Révolutions, j'ai toujours aborder ces thématiques de disque en essayant de ne plus avoir de parti pris. Pour moi, c'est quelque chose d'important. J'aime à choisir des chansons, pardon, j'aime à choisir des chansons qui vont s'opposer. Voilà, pour moi, c'est une espèce de débat qui s'installe dans ce choix de répertoire de disques. Je construis mon programme de façon à ce que l'auditeur ressorte de ce disque avec des doutes, des interrogations sur cette grande histoire, puisque c'est ce que nous mettons en chanson, hein. Cette grande histoire qu'il a l'impression de connaître, et puis après, du coup, grâce à ses chansons, il va aller voir au-delà de cette petite lorgnette pour se plonger peut-être dans des ouvrages d'historiens plus sérieux et, je dirais, peut-être ne plus avoir les mêmes idées. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai choisi. Tout ce répertoire dans ce disque, ça aurait pu être une espèce de fresque chronologique, mais pour moi, ça me paraissait moins intéressant. En tout cas, c'est d'avoir des échos, d'avoir des oppositions et d'avoir des chansonniers qui ne sont pas du même avis et qui n'ont pas le même regard sur ce personnage Napoléon.
Vous parliez des auteurs des textes de ces chansons, donc certains très connus et puis d'autres anonymes. Et qui composait la musique?
Ah, alors la musique, alors on a d'abord peut-être des auteurs qui ont composé les romances. Alors ça, c'est moins le sujet de notre disque, mais c'est souvent des timbres repris sur le passé. Par exemple, on a beaucoup de timbres de l'Ancien Régime, hein. On peut retrouver des timbres qui remontent même à l'époque de la tragédie lyrique. Mais pour cette histoire de la légende de Sainte-Hélène, je dirais que ce répertoire, et notamment les auteurs de ces textes, ils commencent à écrire en réaction à une certaine censure, la censure de la Restauration, Louis XVIII. Rappelons-nous qu'à partir de 1815, à peu près, lorsque l'empereur est déchu, on cherche à étouffer le culte de Napoléon. Alors, les chansonniers, donc ceux qui écrivent tous ces textes, n'acceptent pas cette situation. À partir de 1821, lorsque l'empereur décède, eh bien, c'est cette bataille de chansons qui s'intensifie avec des auteurs comme Béranger et de Brault. Alors, ils n'écrivent pas les mélodies, hein, ça je le précise, hein. Ce sont vraiment des écrivains. Et puis, ces chansons donc, sont interprétées dans des goguettes surveillées par des mouchards. On chante en secret l'empereur. Et puis, il y a des grognards, il y a des officiers qui ont participé plutôt aux épopées de la Grande Armée, et ils se joignent à ces chorales secrètes, je dirais. Et même Vidocq, pour vous montrer l'importance de tout ce répertoire, hein, Vidocq, donc, qui a été dans la police de Napoléon et qui, sous la Restauration, se retrouve dans la police secrète de Louis XVIII, qui est une girouette en quelque sorte, eh bien, sous Louis XVIII, ce Vidocq, il tente de mettre fin aux chansons donc qui condamnent la Restauration. Voilà, donc c'est tout cela qui est intéressant. C'est un petit peu comme tous ces compositeurs issus de la Révolution. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont aussi connu l'Ancien Régime. Donc, il y en a certains qui ont composé sous l'Ancien Régime, qui ont composé sous Napoléon et qui continueront sous la Restauration. Mais Ce n'est pas le cas je dirais, de chansonniers vraiment bonapartistes, napoléoniens, comme ceux que j'ai cités, tels que Debrault et Béranger, qui, eux, pour le coup, vont vraiment écrire la légende de Saint-Hélène.
Alors, justement, dans votre album, il y a une chanson dont le texte a été écrit par Béranger, Pierre-Jean de Béranger, qui s'appelle « Le roi d'Yvetot ». Et cette chanson, quand j'ai lu son texte, elle m'a interpellé parce que je ne voyais pas le rapport avec Napoléon. Je cite quelques paroles de la chanson. « Il n'agrandit pas ses états, fut un voisin commode et, modèle des potentats, prit le plaisir pour code. » Ce n'est pas vraiment le portrait de Napoléon. Alors, pourquoi l'avoir choisi ?
Oui, alors c'est vrai. C'est vrai que c'est une chanson oubliée. Alors, j'ai choisi cette chanson du roi d'Yvetot parce qu'elle est en quelque sorte comme une Madeleine de Proust pour moi. Bon, je suis normand déjà, d'origine, et puis j'avais chez moi une de ces assiettes conçues et illustrées au XIXe siècle comme des images d'Épinal. Vous savez, sur cette assiette, il y avait cette chanson du roi d'Yvetot. Et ça, c'était quelque chose d'assez commun au XIXe siècle, d'avoir des chansons célèbres. Et cette chanson d'Yvetot, j'ai pris conscience par la suite de l'importance de celle-ci. Au-delà de sa thématique, alors c'est celle d'un roi fainéant qui a existé, historique pour le coup, la mélodie du roi d'Yvetot, elle a circulé jusque dans la fin des années 40 pour servir de timbre à d'autres chansons. Presque tous, hein, on peut dire, connaissaient cette mélodie. Elle avait été déjà empruntée, d'ailleurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à l'opéra comique Bastien et Bastienne de Favart, au XVIIIe siècle. Donc, c'est une mélodie reprise sur laquelle Béranger écrit cette chanson en 1813, à peu près après la Bérésina, hein, globalement. Et c'est une façon, en quelque sorte, décontractée, je dirais, avec distance, hein. On n'a pas vraiment l'air d'attaquer l'empereur, mais ça critique ce monarque en appuyant de manière nonchalante sur ce qui fait mal et en disant qu'en fait, il le fait bien. Alors, ça aurait pu mécontenter Napoléon. Hein, il faut savoir qu'à cette époque, on avait conscience de ce double sens des chansons. Mais c'est tout le contraire qui s'est passé parce que son frère, Lucien, ministre de l'Intérieur, eh bien, je crois qu'il a offert une rente à vie à Béranger grâce à cette chanson. Rente, bien sûr, qui sera supprimée pendant la Restauration. Alors, certains, par la suite, ont considéré que cette chanson était comme un hymne anti-napoléonien, hein, qui s'en moquait. Mais moi, à mon avis, je crois que ce n'est pas le cas parce que c'est une chanson, je dirais, de remontrance contre un homme, un personnage d'État qu'en fait, Béranger a adulé jusqu'à la fin de sa vie en 1857.
C'est de la propagande par l'absurde, en fait, plus ou moins.
Absolument, voilà.
Alors, vous disiez que vous parliez tout à l'heure du genre de la romance qui, dans votre disque, est illustré par la voix de Sabine de Vielle. Et oui. Ce genre de la romance, il a connu son âge d'or, justement, au temps de Napoléon. Est-ce une coïncidence ?
Alors, elle a connu son âge d'or au temps de Napoléon, mais déjà on dit que dès la Révolution française en 1800, vous voyez, elle est là pour un petit peu donner du souffle à toute cette violence, avec notamment une fameuse romance intitulée « Bouton de rose », avec une ambiguïté en plus érotique, qu'on s'amusait à chanter à l'époque. Mais c'est oublié que dès 1767, dans son dictionnaire de la musique, Jean-Jacques Rousseau fait un article sur la romance. Et qu'en son dernier recueil… Ah pardon, je suis désolé,
Oui, on a eu une petite musique qui n'était pas napoléonienne. Non, continuez, je vous en prie.
D'accord, voilà. Alors… Excusez-moi. Oui, c'est oublié que dès 1767, dans son dictionnaire de la musique, Jean-Jacques Rousseau fait un article sur la romance et que son dernier recueil, ce sont Les consolations des misères de ma vie, où il fait le choix de ses romances préférées. Marie-Antoinette, également, chante des romances avec de l'art. Chateaubriand écrira des romances. Alors, dans notre disque, comme vous l'avez dit, cette notion de romance évoquée avec la voix de Sabine de Vielle. Alors là, j'ai voulu mettre en valeur les romances de la reine Hortense, hein, qui est la fille de Joséphine de Beauharnais. Et elle compose ce type de romance, elle en fait et le texte et la musique, dites de style troubadour. Et c'est vrai que c'est un petit peu comme ces peintures, finalement, où les héros de la grande armée sont identifiés, comparés aux anciens chevaliers de la légende arthurienne. Et même souvent, on a une ambiance du temps des croisades. Voilà, ce sont ces nouveaux chevaliers. Donc, c'est vrai que tout cela donc, explose durant la période napoléonienne. Et alors, il y a quelque chose de très doucereux, mais tout de même de va-t-en-guerre, hein, puisqu'on est dans cette chose aussi tellement stendhalienne, en quelque sorte, du rouge et du noir, où on a à la fois la prière et puis toujours cette valorisation du guerrier.
Mais au temps de Napoléon, est-ce qu'on pouvait chanter librement une chanson pamphlétaire comme la campagne de Russie que vous avez enregistrée donc dans cet album Nouvelle Sainte-Hélène ? Et je vais citer quelques paroles de cette chanson pour qu'on comprenne. Il était un petit homme qu'on appelait Le Grand. Et plus loin, on a aussi ce texte. S'esquivant de Russie aussi rapidement que le vent, Sa Majesté transit, s'enfuit incognito, entraîneau. Alors, est-ce que ce genre de parole était, je pense que l'empereur et la police de l'empereur n'appréciaient pas tellement, on le chantait dans la rue cependant, sans ennui, ou est-ce que ça se chantait en douce sous le manteau?
Alors, je pense, alors c'est ça qui est intéressant, alors ça, voilà, c'est aussi en relisant certains historiens, on pourrait imaginer qu'il y avait une grosse censure, hein. Effectivement, normal finalement, de bonne guerre, etc. Bon, chanter dans la rue genre de chansons, je ne pense pas, parce que ce n'est même pas Napoléon lui-même qui l'aurait censuré, je pense que c'est le peuple, parce que imaginons-nous à Paris, et imaginons soudainement, je ne sais pas moi, un anti-révolutionnaire ou un royaliste qui se met à chanter cela, mais je pense qu'il serait lynché, parce qu'il y a quand même eu des grandes périodes où tout le peuple, quasiment, était derrière Napoléon et l'encensait. Hein. Il est devenu, je dirais, cet empereur, peut-être grâce à une propagande, mais cette propagande elle-même fait que, de toute façon, il y a tout un peuple derrière lui, et voilà, on ne peut pas dire n'importe quoi de son empereur, ça, on a des témoignages. Hein. Encore plus, imaginons, dans la Grande Armée, si vous vous mettez à chanter des chansons comme ça, je crois que ce n'était pas possible, mais ça, c'est mon avis. Alors, par contre, bien sûr, il y a, je dirais, la propagande anti-napoléonienne soutenue par les Anglais, hein, qui sont omniprésents et qui cherchent justement à répandre donc tous ces textes anti-napoléoniens par des ouvrages, par des illustrations, par des objets qui, très régulièrement, sont confisqués par la police secrète de Napoléon. Exactement comme ça se passera sous la Restauration, on se combat à coups de chansons, donc bien sûr, puisqu'on se bagarre à coups de chansons, la censure est assez présente. Mais, certains historiens disent que finalement, peut-être qu'à l'époque de Napoléon, ce n'était pas la pire des censures, et que je pense qu'elle a été bien plus agressive après 1821.
Il y a une chanson dans votre album qui s'appelle « La complainte de la machine infernale », qui est datée de 1801 et qui raconte l'attentat royaliste de la rue Saint-Nicaise, qui était survenu un an plus tôt, le 3 Nivose en 9, c'est-à-dire le 24 décembre 1800. Et oui. Cette chanson, donc, on voit Napoléon Bonaparte, qui alors était premier consul de France, qui allait à l'opéra, c'est ce que dit la chanson. C'est une distraction qui lui était coutumière ?
Alors, le jour de cet attentat de la rue Nicaise, donc Napoléon se rend à une représentation effectivement. Mais alors déjà, ce n'est pas un opéra, c'est la création de Haydn. Alors, allait-il souvent à l'opéra ? Oui, moi je le pense, hein, parce que de toute façon, l'opéra est un art majeur à cette époque et il sert terriblement la politique et la propagande. Il est central dans la vie artistique de tous les Parisiens notamment. D'ailleurs, ne sera-t-il pas appelé Académie impériale de musique? Donc, exactement comme sous l'Ancien Régime, on se sert de l'opéra. Alors lui, Napoléon, je pense qu'il l'aime, mais peut-être aussi, je dirais, peut-être plus d'histoire de femme avec tous ces salons, de ces personnalités féminines qui l'entourent, avec Joséphine, qui imposera par exemple le premier opéra en français, hein, de Spontini, la Vestale. Joséphine aussi qui soutiendra des chanteurs de l'Ancien Régime, comme Gara et de nombreux compositeurs. Elle mettra aussi la harpe au cœur de ses occupations salonesques. Alors, vous me demandez si Bonaparte aimait l'opéra. Ce qui est certain, c'est qu'il aimait certaines chanteuses d'opéra, puisqu'il eut comme maîtresse la fameuse Rossini en 1806, et qu'elle est nommée la première cantatrice de Sa Majesté l'Empereur. Ce qui est amusant pour l'anecdote, c'est qu'elle a fini dans les bras de Wellington.
Alors, Wellington, l'ami juré de Napoléon, hein, qui l'a défait à Waterloo.
Absolument, voilà. Donc, c'est toutes ces choses amusantes, en tous les cas, par rapport à ces petites histoires. Voilà.
Et on connaît les goûts musicaux de l'empereur, à part le lui permettre comme ça de fréquenter de jolies cantatrices.
Alors, pour ce qui est de ses goûts musicaux, je ne sais pas précisément. Ce qui est certain, c'est que Napoléon adorait le théâtre. Voilà, ça, l'art de la scène. Mais, alors, moi, ce que j'essaie de réinventer, c'est le personnage. On sait très bien qu'il avait du mal à tenir plus de 20 minutes en place. On dit qu'il n'aimait pas rester trop longtemps à un repas. Voilà, moi, je l'imagine difficilement en train de rester de longues périodes à un concert. Mais je l'imagine plutôt en homme de guerre qui apprécie les fanfares et les batteries. Hein. Et tout cela, nous l'avons évoqué dans notre disque avec les cuivres romantiques. Moi, j'imagine Napoléon excité par la sonnerie, par exemple, de son sergent-major Kretli. Hein. C'est lui qui reçoit une légion d'honneur et une trompette d'honneur grâce à ses actes de bravoure. Je ne sais pas, moi, j'imagine Napoléon excité comme un cheval de race, là, par le chant brutal de ses grognards. C'est ce qu'on a fait dans le disque avec « J'aime l'oignon ». Ou alors, lorsqu'il entend « La victoire est à nous » sur un air de Grétry entonné dans les rues de Moscou lorsqu'il fait son entrée dans cette grande ville. Voilà, je l'imagine aussi lors de ses voyages, hein, où parfois il était anonyme, lorsqu'il revient de la Bérésina, on le sait, avec quelques intimes. Voilà, je l'imagine mélangé au peuple dans quelques cabarets, où il va écouter un chansonnier qui entonne quelques couplets à la gloire de la grande armée. C'est comme ça que je l'imagine, ce Napoléon. Voilà, je pense qu'il aimait la musique du peuple.
Alors, cette musique du peuple, cette chanson populaire, qui donc a connu son heure de gloire et qui a exalté la personnalité de Napoléon, est-ce qu'elle a survécu à Napoléon, au mythe de Napoléon ? C'est-à-dire, en fait,
alors,
oui, pardon.
Non, je vous en prie, oui.
Non, c'est-à-dire, en fait, une fois Napoléon mort, une fois Napoléon encensé, vers la fin du 19e siècle, alors que le régime est plus ou moins stabilisé au moment de la Troisième République, est-ce qu'on continue quand même à avoir des chansons à des fins de propagande politique ?
Oui, on continuera de toute façon à se battre et à mourir pour des chansons. Moi, ce que je dis souvent, c'est pas de révolution sans chanson. Hein. De toute façon, après, on aura des chansons tout au long des grands événements politiques. Hein. Je vous ai parlé au tout début de 14-18. Bon, bah, 14-18, c'est un nombre incroyable de chansons et des chansons en plus censurées. On en a retrouvé plein. Au ministère de l'Intérieur pour des raisons politiques, hein, certaines chansons anarchistes, antimilitaristes, mais aussi parce qu'elles pouvaient casser le moral. Mais on retrouve aussi bien sûr toutes ces chansons politiques de lutte des classes. On les rencontrera aussi durant la Seconde Guerre mondiale, jusque pendant nos guerres des années 50 et puis la guerre d'Algérie, etc., où il y aura toujours un répertoire chansonnier, alors peut-être différemment utilisé, mais qui raconte des choses politiques. Et puis même, rappelons-nous, je dirais dernièrement dans Le Monde, hein, cette chanson contestataire qu'on a connue, par exemple, durant les printemps arabes, voilà, où moi j'ai entendu dans certaines émissions de radio à quel point c'était important. Voilà. Peut-être que sur notre continent, cette chanson politique donne cette impression d'avoir moins d'importance, mais elle est encore omniprésente un petit peu partout dans le monde. Ça, j'en suis persuadé.
Arnaud Marzorati, merci pour cet entretien napoléonien, si je peux dire. Je rappelle le titre de votre nouvel album, Sainte-Hélène, la légende napoléonienne, sorti en France le 23 avril 21 et disponible dans chez tous les disquaires ou en ligne ou en streaming. Merci Arnaud Marzorati, à bientôt.
Merci à vous, au revoir.